Chers frères et sœurs, une petite phrase à la fin du premier texte des Actes des Apôtres que nous avons entendu, qui dit que l'Église, au tout début, à Jérusalem, Judée, la Galilée, la Samarie, vivait dans l'obéissance au Seigneur et grandissait avec l'aide du Saint-Esprit. J'aimerais partir de cette phrase ce soir pour méditer sur deux sujets très liés, la croissance de l'Église et le Saint-Esprit. Je pense que ça nous aidera à nous préparer à la fête de Pentecôte d'ici 2 semaines, qui est à la fois la fête du don de l'Esprit aux disciples réunis à Jérusalem et la fête de la naissance, on pourrait dire, de l'Église. Et comme vous savez, l'Église primitive a connu une croissance spectaculaire portée par le souffle de l'Esprit. D'abord, un mot sur ce thème, la croissance de l'Église. Il est aujourd'hui un sujet en tête d'agenda de bon nombre d'Églises, toutes confessions confondues. Autant les Églises évangéliques, mais qu'aussi anglicanes ou encore l'Église catholique, ou notre Église protestante unie. Il y a au moins 2 raisons évidentes, me semble, à cela. D'abord, qu'en Occident, mais surtout en Europe, depuis 50 ans, on va dire en gros, les Églises sont dans une véritable décroissance. Beaucoup d'Églises se vident ou se sont vidées au cours des dernières années. Parfois un petit peu moins à Paris, mais il suffit de s'éloigner de Paris, d'aller à la campagne pour s'en rendre compte. Les statistiques, en tout cas, sont claires là-dessus. Mais deuxièmement, et en contraste en quelque sorte, il y a aussi des églises qui vivent aujourd'hui, aussi dans notre société, à Paris, une croissance spectaculaire, souvent des églises du type évangélique ou pentecôtiste. Ce qui fait que des églises plus historiques ou établies s'interrogent presque jalousement, mais d'où vient leur succès ou leur capacité de grandir à ce point dans cette période de déchristianisation si profonde? Il faut savoir qu'il y a 15 ans déjà, des évêques catholiques, entre autres Barbarin de Lyon, ont envoyé des prêtres aux États-Unis en éclaireur avec la mission de découvrir, on va dire, la potion magique de certains de ces églises aux États-Unis. Il faut savoir aussi que notre Église protestante unie s'est intéressée ces dernières années à ce qui se passe en Angleterre où des formes toutes nouvelles de communautés chrétiennes ont vu le jour, par exemple autour d'un restaurant ou une crèche, un cinéma, l'intérêt pour une expression artistique, des lieux où l'Église se réinvente complètement sous des formes parfois surprenantes, mais très proches de la vie de tous les jours. On parle de « fresh expressions » de l'Église. Et c'est un phénomène depuis 20 ans, mais constant maintenant en Angleterre, que l'Église d'Angleterre a pris tout à fait au sérieux. Aux États-Unis, un pasteur baptiste a créé en 15 ans une église à partir de rien du tout, où ils sont plus de 15 000, peut-être le double d'ailleurs aujourd'hui. Et ce pasteur évangélique ne prêchait pas du tout la fin du temps ou l'enfer, mais un message modéré aux accents évangéliques nouveaux. Dans ce livre, il cite volontiers le livre de sagesse, et s'appuie beaucoup sur le bon sens. Ils n'avaient pas de bâtiment pendant 15 ans et erraient d'une salle, parfois de cinéma, à un autre. Ils sont 30 000 aujourd'hui. Il y a sans doute des choses à apprendre de ces expériences pour réinventer l'Église aujourd'hui, dans ce début du XXIe siècle, dans une société où tant de choses évoluent si vite. Et bien sûr, si nous voulons apprendre de ces expériences-là, il faut faire preuve de discernement, parce que ce qui marche aux États-Unis ne marche pas forcément en France. Il y a aussi parfois des méthodes qui semblent plus inspirées par le monde du marketing ou des entreprises que par l'Évangile. Il y a sans doute à prendre et parfois à laisser. Mais une chose est sûre, dans les années à venir, la question de faire face à la décroissance de l'Église, qui est si réelle dans l'Église réformée, suffit de se rendre compte d'aller parfois dans de petites églises autour ou dans la banlieue de Paris pour en prendre conscience, et ça m'arrive de prêcher dans des paroisses un peu hors du centre de Paris. Cette question de l'avenir de notre Église, la croissance de l'Église face à cette décroissance, se pose clairement. Notre Église réformée, on en a pris conscience, je pense, depuis quelques années. Peut-être pas toujours dans nos communautés, d'ailleurs. Nous sommes encore une paroisse privilégiée, ici dans le centre de Paris. Mais nous aussi, nous voulons avoir quelques clés pour savoir comment nous adapter comme Église à ce monde nouveau autour de nous qui évolue à toute vitesse et renouer avec nos contemporains. Se renouveler, préparer l'Église de demain. L'Église de demain aura un autre visage de ce que nous avons connu. Un autre visage que le modèle de Calvin élaboré il y a 4 siècles. Bien que dans ces 4 siècles, il ait montré aussi quelques-uns de ses forces, on va dire. Mais l'Église de demain sera différente. Si nous voulons réfléchir sur cette question, nos églises sont invitées à réfléchir là-dessus, elles le font déjà. Nous ferons avant tout bien de méditer ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Parce que là aussi, nous voyons une église en croissance, spectaculaire même, cette église primitive. Mais pendant des siècles, elle a fait plier l'Empire romain. Quelle était la clé de sa croissance? Mais il n'y a pas de doute. Le Saint-Esprit, à partir du jour de Pentecôte, on nous parle des hommes et femmes qui étaient remplis du Saint-Esprit, leur vie avait été transformée par le Saint-Esprit, qui leur a donné cette joie du témoignage, de l'Évangile, cette joie de se mettre en communauté, de partager, de louer Dieu dans le temple, comme on nous dit, de prier ensemble et d'aller jusqu'au bout du monde pour témoigner de Jésus-Christ. Eux, ils n'avaient pas de stratégie de développement ou de méthode de marketing ou un projet de vie bien pensé et organisé. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Ils étaient habités par le Saint-Esprit. Et cela nous donne à réfléchir, aussi au moment que nous allons fêter Pentecôte, une fois de plus. Apparemment, il n'y a rien de plus nécessaire pour la vie de l'Église et sa bonne santé, sa vitalité, son rayonnement, sa croissance, que le Saint-Esprit. Des chrétiens transformés par le Saint-Esprit est la première condition pour l'Église, pour grandir. Ça a été vrai pour l'Église des premiers siècles. Je pense que cela est encore vrai aujourd'hui aussi pour nous. Sans le Saint-Esprit, pas de vrai renouvellement de l'Église. Si Dieu ne bâtit pas la maison, dit un psaume, les ouvriers bâtissent en vain. La question, la vitalité de la croissance de l'Église est d'abord une question de notre vie spirituelle et donc notre relation à Dieu et l'œuvre de son Esprit dans nos vies. Dans notre tradition protestante, On ne parle pas tellement de l'action du Saint-Esprit. Bien sûr, dans la liturgie, on en parle, mais d'ailleurs, dans la liturgie, Calvin l'a très lié à un moment particulier qui est la lecture de l'Esprit-Saint, où nous invoquons toujours le Saint-Esprit. Sans vouloir faire un coup mauvais à Calvin, mais je crois qu'il a mis le Saint-Esprit un peu en boîte ainsi. Et je pense que l'Église catholique l'a fait aussi à sa manière, en liant le Saint-Esprit énormément au sacrement, voire au ministère. Mais le Saint-Esprit est d'abord l'action de Dieu dans notre vie, comme ont fait l'expérience des premiers chrétiens, Paul, Jean et tous les autres. Le Saint-Esprit est une expérience concrète parce que c'est l'expérience de l'amour de Dieu dans notre vie. On peut dire, en simplifiant, mais je crois que c'est vrai en profondeur, que le Saint-Esprit est l'amour de Dieu. Et si le Saint-Esprit est une force, la force d'en haut, comme dit Jésus, c'est parce que c'est la force de l'amour de Dieu. Si l'Esprit est un esprit d'unité et de communion, c'est parce que l'amour nous rassemble et nous fait rapprocher et créer la communion. Si le Saint-Esprit est un esprit de joie, c'est parce que l'amour nous donne la joie. Si le Saint-Esprit est un esprit de paix, parce que l'amour est source de paix. Et si le Saint-Esprit est un feu, c'est parce que l'amour est une réalité transformatrice, comme le feu qui transforme, ou encore une brûlure. Si le Saint-Esprit est le vent, comme disent d'autres images dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'il est toujours invisible, mais réellement une force, comme le vent qui est une force, mais on ne le voit pas. L'amour de Dieu est cette force-là, invisible, mais est une force. Je crois qu'on comprend beaucoup mieux ce qu'est le Saint-Esprit si on le pense de lui en termes de cet amour de Dieu, que c'est l'amour. Du coup, le Saint-Esprit, lui, peut envahir quelqu'un parce que l'amour de Dieu peut envahir quelqu'un. Parfois dans un moment de grâce, un moment particulier de notre vie, et certains parmi nous l'ont vécu, de sentir réellement cet amour de Dieu qui peut nous envahir ou nous bouleverser, bien que c'est un moment de grâce et parfois rare de notre vie, mais on peut s'en souvenir toute une vie d'un tel moment. C'est le Saint-Esprit, ce que les amis pentecôtistes ou charismatiques appellent le baptême dans le Saint-Esprit. C'est rien de mystique. C'est l'expérience bouleversante de l'amour de Dieu que je ressentis. C'est pourquoi le Saint-Esprit, on peut tout à fait le ressentir. C'est aussi une émotion, pour la simple raison que c'est l'amour de Dieu, et ça c'est aussi une émotion de sentir l'amour. Mais j'ajouterais ceci, l'amour, comme dans une relation de couple, est aussi quelque chose qui peut être là sans qu'on le ressentit dans de grands élans, mais il se fuit dans la fidélité des jours, comme une réalité qui est là, humblement cachée, mais il est là. Et cela, c'est aussi le Saint-Esprit, il est aussi dans notre vie cet amour de Dieu de manière humble, souterrain, caché, mais il est là et fait que nous sentons appelés à porter nos dons à la vie de l'Église d'une manière ou l'autre, et chacun de nous a des dons qui peut apporter à la construction du corps du Christ, chacun de nous sans ce besoin de s'approcher de Dieu et de l'Évangile, sinon vous ne serez pas là ce soir. C'est le Saint-Esprit dans votre cœur. Comment apprivoiser le Saint-Esprit?
si c'est le Saint-Esprit qui donne la vitalité à la vie chrétienne, à la vie de la communauté, à la croissance de l'Église. Cette question est donc vitale, me semble. Comment trouver cette source en nous qui est cette force de Dieu, cette force créatrice? Parce que l'amour de Dieu est toujours créatrice. C'est la première chose qu'on dit du Saint-Esprit, Esprit créateur. Mais si nous recevons vraiment l'Esprit Saint, nous recevons cette force créatrice pour notre vie et pour la communauté de l'Église. Esprit créateur, c'est ce que nous demandons dans nos chants. Viens, Esprit créateur, que nous chantons. Qu'est-ce que vous chantez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous priez quand vous dites « Viens, Saint-Esprit » Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous priez? Mais vous demandez que la force de Dieu, de son amour, vient en vous, de sa manière multiple, qui peut nous rendre tout simplement plus serviables, patients avec l'autre, plus généreux, plus actifs dans la communauté, plus proches de votre prochain, votre conjoint. C'est cela que vous demandez quand vous dites « Viens, Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit créateur. » Une chose est sûre, et c'est mon dernier point, le Saint-Esprit se donne dans une relation réelle et vivante avec Jésus-Christ. C'est ce que Jésus dit lui-même ce matin, ce soir, dans cette page d'évangile de Jean que nous avons entendue. Restez unis à moi et vous porterez des fruits. Restez unis à moi. On peut s'interroger, chacun de nous, qu'est-ce que cela veut dire pour moi de rester unis à Jésus? Ce qu'il nous le dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire de bon pour le royaume de Dieu. Ça nous ramène à notre relation chacun à Jésus, mais aussi en tant que communauté. En même temps, chacun de nous vit déjà de plusieurs manières cet attachement à Jésus. Encore une fois, sinon vous ne serez pas là. Parce que si vous êtes là ce soir, c'est si au fond ce qu'on fait là, c'est méditer les paroles et la vie de Jésus. Aussi, tout à l'heure dans la Sainte-Cène, on se souvient de sa mort, de sa résurrection. Venir au culte, c'est se souvenir de Jésus pour s'attacher à sa vie et sa parole et trouver lumière pour sa vie, personnellement et collectivement. Être là, ça montre déjà votre désir de vous attacher à Jésus. Mais s'attacher à Jésus, c'est aussi faire partie de sa communauté qui est le corps de Jésus. En faisant partie de la communauté chrétienne, ici ou ailleurs, vous vous attachez à son corps, parce que l'Église est le corps de Christ. S'attacher à la communauté, c'est s'attacher à Jésus lui-même. Dans le pain et le vin, on s'attache, ou Jésus s'attache à nous, dans la communion mystérieuse du pain et du vin. En étant solidaire d'un être humain, frère ou sœur, qui souffre, vous vous attachez à Jésus, parce qu'il est dit, tu le fais à moi. Si vous cherchez à vivre les valeurs de l'Évangile, c'est une manière de s'attacher à Jésus, je pense. Le chanter ensemble, au culte ou ailleurs, c'est s'attacher à Jésus. C'est bien sûr aussi dans le cœur à cœur de la prière, bien que cette prière nous semble parfois difficile, pauvre, sèche, mais toute moment mis sous son regard, Jésus s'en réjouit et il en fait quelque chose dans votre vie et pour votre vie. Et enfin, s'attacher à Jésus, c'est le choisir comme celui qui est pour moi, pour toi, le chemin, la vie, la vérité, et oser réaliser sa vie avec lui dans l'alliance de toute une vie. C'est Jésus qui le dit, « Demeurez attachés à moi et vous porterez du fruit. » Et il ajoute, « Pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Parole de Jésus lui-même. Amen.